Nous allons avoir une série de présentations plutôt courtes et donc dynamiques sur à la fois les petits projets, entre guillemets, ce qui est appelé les petits projets dans la nomenclature du PEPR ICAR et les accompagnements doctoraux, pour faire un petit point sur où en sont ces choses-là. Et nous allons avoir 5 interventions d'affilée. Et la première intervention est une intervention de Fabrice Rochelandais et de Stéphanie Pelletier qui nous rejoignent en visio. Et voilà, vous êtes là en direct et nous vous écoutons. Et nous allons avoir besoin, évidemment, la régie de PowerPoint pour pouvoir suivre toutes les belles choses que vous allez nous raconter sur l'avancée de vos travaux.
Bon. Est-ce qu'on voit quelque chose ?
Pour l'instant, on voit vos visages qui sont... Oh ! Quelque chose s'affiche ? Ouais. Absolument, oui. On voit votre PowerPoint.
C'est vrai. Magnifique.
C'est parti. Bien,
ouais. Bon, ben voilà. Je m'appelle Fabrice Rochelandais, je suis professeur à la Sorbonne Nouvelle, professeur en communication, et je vais faire cette présentation avec Stéphanie Pelletier, qui est à l'Université de La Rochelle, professeur en économie, en économie de la culture. Tout d'abord, on voudrait remercier les organisateurs de l'événement, et en particulier Lucie Marinier, pardon. Et nous excuser, enfin, en tout cas moi, m'excuser, malheureusement j'ai des engagements familiaux très forts, très lourds, et ça m'empêche d'être là alors que j'adore ce lieu qui est de la chasse et de la nature. Voilà, alors, sur le projet, donc c'est un petit projet, mais avec de grandes ambitions, qui porte sur le documentaire nature, et qui s'intitule donc documentaire nature, l'analyse narrative des contenus audiovisuels, et l'impact sur la conscience écologique des publics. Donc c'est un projet de recherche de 2 ans qui est interdisciplinaire, sciences humaines et sociales, en particulier économie et sciences de la communication, et STIC, donc, notamment en informatique. Alors, les membres du projet, donc, à part Stéphanie, donc, que je vais présenter rapidement, et moi-même, nous avons donc 3 autres membres principaux et institutions associées. Marie Daniel, donc, qui est directrice de l'IFCAM, qui est un institut de formation, réalisateur, chef opérateur de cinéma animalier. Géraldine Puls, qui est responsable de la valorisation scientifique à l'Institut national de l'audiovisuel. Et puis enfin, une collègue en informatique, en STIC, qui s'appelle Georgetta Bordea et qui est à l'Université de La Rochelle. Alors cette équipe donc est pluridisciplinaire et associe donc des chercheurs et des praticiens. Donc l'idée c'est d'appréhender donc la question des documentaires nature et de leur impact sur l'éco-conscience, en particulier des publics. Alors on part pour cela d'un paradoxe, un paradoxe écologique des documentaires nature, c'est que d'un côté les documentaires nature donc montrent la beauté mais aussi souligne la fragilité de l'environnement, des écosystèmes, etc. Donc c'est l'allié, c'est parmi les alliés des luttes environnementales, puisque ça pousse à l'éco-sensibilisation des publics, l'énonciation de la déforestation, de la pollution, souvent, ça incite à des comportements pro-environnementaux, ça peut aussi avoir une influence sur les décisions publiques. Mais, c'est là le paradoxe, c'est qu'en même temps, bien, ces documentaires nature peuvent avoir des impacts négatifs, potentiellement en tout cas. Certains peuvent avoir de fortes empreintes carbone, hein, au niveau des tournages, par exemple. Peuvent aussi amener d'autres, une surfréquentation touristique des sites filmés, une perturbation même des milieux naturels lors des tournages, en particulier. Et puis, au niveau du public, bien, ça peut amener parfois à de l'éco-anxiété, un sentiment d'impuissance des publics, de certains publics en tout cas, et une résignation finalement par rapport aux luttes et à l'action pro-environnement. Donc une démotivation, une résignation. Donc par rapport à ça, eh bien, notre projet justement est d'étudier justement cet impact et de prendre en compte ces deux aspects, ce paradoxe, pleinement ce paradoxe. Alors au niveau toujours du contexte, l'audiovisuel c'est un secteur à fort enjeu écologique. D'abord dans les ICC, dans les industries culturelles et créatives et culturelles, l'audiovisuel, c'est le secteur d'activité le plus polluant, nous dit l'ARCOM, hein, dans un rapport en 2024. Or, le documentaire n'est pas négligeable au sein de l'audiovisuel, puisqu'il représente, sur la période en tout cas que l'on veut étudier, 2010-2025, près de 12 000 en fait, documentaires nature, en comparaison avec les longs-métrages et les téléfilms. On voit qu'ici, ce n'est pas un poids négligeable. Malgré ce poids important, les études sont assez soit datées souvent, hein, par exemple la dernière étude sur la réception du public qui est des documentaires sur France Télévisions, ça date de 2007, un peu ancien. Et au niveau scientifique, cette fois-ci, eh bien, on a noté en France, en tout cas, une étude en 2022 sur l'impact écologique plutôt positif, justement, des documentaires en France. Alors, c'est juste aussi par rapport au contexte, hein, toujours pour le poids. Alors, je vous donne quelques chiffres, mais vous aurez le PDF pour vous. Voilà, hein, certains, par exemple, des documentaires nature que l'on étudie, qui sont dans la base que l'on va étudier depuis 2010. Bon, voilà, il y en a quatre en tout cas qui sont assez connus, hein, peut-être vous en avez vu certains ou tous, je ne sais pas. Voilà, donc il y a quelques chiffres pour montrer un peu qu'il y a quand même quelques documentaires, notamment documentaires nature, qui sont millionnaires, voire multimillionnaires. Voilà, donc là il y a quelques données, mais je passe rapidement le temps qui nous est imparti. Alors, au niveau de la revue de littérature, donc comment on se positionne dans notre projet, bien, notre projet, lui, ce que l'on sait par rapport à la littérature, on constate que la littérature est essentiellement en fait une littérature grise, hein, faite de rapports, notamment en France, qui va notamment bien documenter les impacts négatifs à l'empreinte carbone des tournages, les perturbations des milieux naturels, la surfréquentation. Donc là, on cite par exemple deux études du CNC en 2023 et EcoProd en 2025. Il y a également des études sur la représentation de l'écologie dans les œuvres de fiction, mais pas dans le documentaire, notamment l'Observatoire de la fiction en 2025, qui a posé une étude pionnière dans le domaine. Des études plus récentes, ben, le CNC notamment, d'un collègue à moi, Laurent Freton, et un collègue Laurent Salard, qui avait produit une étude au CNC sur le bilan carbone et l'éco-conditionnalité, hein, sur comment amener les institutions à réduire leur empreinte carbone lors des productions, lors des tournages en particulier. Et puis, quelques études quand même sur les comportements, mais essentiellement des études de mode expérimentation en laboratoire et souvent auprès d'un public étudiant, donc c'est assez restreint, sur justement l'impact que les œuvres du visuel peuvent avoir sur les comportements et les perceptions des individus. Ah, voilà, donc voilà la littérature. Alors, par rapport à cette littérature, ben, nous on a identifié des lacunes, hein, dans la littérature, notamment l'absence d'analyse de représentation écologique dans les documentaires de nature. Il y a quelques études, je viens de le dire, en laboratoire, mais finalement essentiellement des études auprès de publics et dans des contrôles comportementaux, dans des études comportementales en psychologie ou en économie comportementaliste, mais en laboratoire. Des études assez anciennes, je l'ai noté, et finalement pas de comparaison sur la diffusion des documentaires nature à la télévision versus le web, pour savoir si ça change quelque chose, et encore moins, pas d'études non plus, pour voir ben, finalement est-ce qu'il y a une convergence entre les attentes des publics et la vision des professionnels. Bon, par rapport à ces lacunes, à l'ensemble de ces lacunes, nous ce qu'on propose, c'est la première recherche interdisciplinaire et SHS-TIC sur ce sujet, sur l'impact écologique donc des documentaires nature, avec un gros corpus, hein, inédit grâce à notre partenaire l'Institut National de l'Audiovisuel, donc un corpus de près de 11 800 documentaires, une analyse à la fois côté offre, la production, les conditions de production, mais aussi de la point de vue de la réception, de la demande, hein, de ces documentaires. Et puis enfin, bah, ce projet veut proposer des recommandations opérationnelles et pas seulement pour baisser l'empreinte carbone. On pense que ce n'est pas suffisant dans la balance, hein, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Donc je passe tout de suite la parole à Stéphanie pour qu'elle explique bah, justement le contenu scientifique.
Merci. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Il me reste 3 minutes pour exposer la présentation. Mais voilà, je vais essayer d'être très rapide. Donc, le projet il tourne autour d'environ 5 grandes questions de recherche. La première porte véritablement sur l'évolution du discours narratif dans les documentaires nature, en se posant la question, mais est-ce que ces documentaires nature aujourd'hui servent davantage la cause écologique, puisqu'on va avoir une évolution sur une quinzaine d'années. Observe-t-on une différence de traitement, donc suivant le type de chaîne, traditionnelle, thématique et régionale? Et puis également, aujourd'hui, face à la concentration dans les médias, on pense qu'il est intéressant de regarder le lien entre les modèles économiques et la nature des discours. Par exemple, un producteur indépendant qui n'est pas affilié à un grand groupe de communication, est-ce qu'il dispose d'un discours plus libre ou non face aux enjeux écologiques actuels? Les autres questions portent sur la réception, donc la nature symbolique des œuvres. Et justement, comme l'a dit Fabrice, c'est pas si étudié que ça. quels sont les impacts des documentaires sur trois niveaux, à la fois l'éco-conscience, l'éco-anxiété, mais aussi l'éco-engagement. Est-ce que ça pousse les individus à adopter des comportements pro-environnementaux ou non? La quatrième question porte sur les discours narratifs. Est-ce qu'on peut identifier des discours narratifs qui sont... qui incite davantage à l'engagement écologique, qui sensibilise davantage. Et en étudiant à la fois l'offre et la demande, l'intérêt de cette recherche, ce serait de pouvoir montrer si les attentes des professionnels sont en fait conformes ou non, convergent avec les attentes du public. Diapositive suivante. Donc, bien entendu, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'un documentaire nature? Nous, on l'a défini comme un documentaire audiovisuel dont le sujet principal est le monde du vivant et qui englobe en fait l'ensemble des milieux naturels. Mais bien entendu, quand on va concrètement, et on a commencé cette semaine à analyser en fait le catalogue de l'INA, donc sur cette période de 15 années, et il n'y a pas de thématique nature. Donc il va falloir regarder précisément quels sont les documentaires qui sont identifiés. Donc pour l'instant, on en a identifié deux, on est en train de faire l'analyse, mais on a identifié faune et environnement, qui sont deux catégories qui ne se recoupent pas forcément. Donc en prenant en compte l'ensemble des télévisions, incluant à la fois les œuvres françaises mais aussi étrangères, étant donné l'importance, tout le monde le sait, de la BBC dans le domaine des documentaires de nature, excluant les reportages donc, qui peuvent parfois apparaître dans des émissions de type envoyé spécial, et ne prenant pas en compte donc, les rediffusions. Donc j'ai déjà dépassé l'horaire, donc je vais aller très vite. Donc du côté offre, vous voyez là sur la diapositive, on a trois types d'actions, à la fois des analyses textuelles par traitement automatique des langages, on pourra y revenir peut-être pendant la discussion, une analyse des caractéristiques des documentaires, les notices de l'INA s'avèrent très riches sur des informations à la fois sur les horaires de diffusion, la nature du financement, et puis également couplé grâce au partenariat avec l'IFCAM, donc avec des entretiens, avec des réalisateurs animaliers sur la perception du lien documentaire nature et environnement. Suivante. Du côté de la demande, trois actions aussi engagées, à la fois une enquête représentative de la population française, des protocoles expérimentaux qui seront mis en place avant et après projection, et puis également une analyse des controverses autour des documentaires nature sur les réseaux sociaux. Ce projet, il s'accompagne aussi d'un programme de séminaire en ligne auquel vous êtes tous conviés à participer. Donc ça, c'est un programme qu'on envisage ouvert et participatif, hein, avec des chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences informatiques, en sciences biologiques, etc., mais aussi des professionnels. Donc l'idée, comme toutes les journées d'accélération du PEPRICAIR, c'est de favoriser les échanges entre recherche et pratique. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Voilà, donc j'ai un peu dépassé, je m'arrêterai là, je vous mets juste les livrables envisagés pour ce projet sur cette dernière diapositive. Et je vous remercie de votre attention. Un peu dépassé.
Merci beaucoup à tous les deux. C'est un exercice très compliqué que de présenter comme ça à distance. Et merci de vous être plié à cette mini-épreuve. Je vous remercie beaucoup. Je vais inviter les quatre suivants et suivantes à venir me rejoindre sur scène. Vous allez pouvoir vous installer autour de la table basse, et vous avez à votre disposition trois micros que vous allez pouvoir vous prêter les uns les unes les autres. Et je vais pour ma part lancer vos différentes présentations, etc. Mais nous allons commencer par une vidéo, c'est ce qui était dans le etc. Je vois que vous êtes maintenant tous placés.
Je peux peut-être la présenter.
Mais complètement, absolument. Je vous présente et ensuite vous présenterez votre travail. Donc nous allons d'abord avoir Thierry Botti du CNRS pour le projet Rivière, donc avec ce fameux film que vous allez absolument présenter. Céline Larère de la compagnie Morula pour le projet Essaim Patron, Magali Martin d'Aix-Marseille Université, et Inès Selman en co-direction de thèse entre le Conservatoire national des arts et métiers et l'Université Paris 8. Voilà. Et donc, Thierry, je vous laisse nous présenter votre film.
Il faut les activer.
Allô, allô. Merci. Bonjour, donc oui, je suis Thierry Botti, responsable du service communication partage des connaissances de l'Observatoire des sciences de l'univers ITEAS à Marseille. Je porte le projet Rivière avec deux autres partenaires, donc Christian Sédille, qui est directeur du GMEM, Centre National de Création Musicale, et Thierry Tatoni, qui est professeur ex-Marseille Université et qui porte l'initiative Éco-Complète, donc qui réunit des chercheurs de multiples horizons autour de l'éco-complexité écologique. Alors il se trouve que mercredi dernier, il y a trois jours, on avait prévu une réunion, une journée d'expérimentation avec les chercheurs et les artistes, et à l'occasion de cette réunion, on s'est dit, mais si, plutôt que de faire un PowerPoint, on utilisait une des pratiques qu'on va utiliser dans ce projet, dans ces rencontres avec nos artistes, avec nos chercheurs, pour faire la présentation. Donc on vous a improvisé une présentation du projet Rivière, donc c'est vraiment en mode impro, en mode création radiophonique, qui sera une des pratiques utilisées dans, qui est une des pratiques utilisées dans le projet. Voilà, j'en dis pas plus, et c'est bon. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lancer le film, s'il vous plaît ?
C'est surtout le son.
Interdisciplinaire, porté par l'Observatoire des sciences de l'univers PITEAS, l'initiative éco-complète du CNRS et le GMEM, Centre national de création musicale. Rivière. Il existe sous nos villes des mondes que nous ne regardons plus. Des eaux discrètes, des cours invisibles, des rivières oubliées qui continuent pourtant de traverser nos territoires, nos paysages et nos vies. À Marseille, certaines coulent encore à ciel ouvert, d'autres ont disparu sous le béton. Mais toutes racontent quelque chose de notre lien au vivant. Toutes sont essentielles à la vie. C'est de nos échanges sur ces enjeux qu'est née Rivière, et l'envie de réunir autour de ces questions des scientifiques de multiples disciplines, écologues, économistes, spécialistes des socio-écosystèmes, avec des artistes issus des arts sonores et visuels. De territoire, un projet collectif, un projet participatif. Autour des artistes et des chercheurs se rassemblent des élèves, des habitants, des personnes âgées en EHPAD, des publics parfois éloignés des sciences comme de la création contemporaine. Car au fond, la question est simple. Comment recréer du lien avec les rivières ?
Comment
rendre perceptible ce que nous ne voyons plus ?
Comment
faire entendre l'écologie d'un territoire ?
Comment
transformer une donnée scientifique en émotion, en écoute en expérience sensible. Les artistes, en se nourrissant des savoirs scientifiques, peuvent révéler autrement ces milieux complexes que sont les rivières. Et les scientifiques, en découvrant des pratiques artistiques, peuvent eux aussi déplacer leur regard, leur manière de raconter, de transmettre, de partager leurs connaissances. Le projet se construit alors comme une traversée en quatre temps. Premier temps, l'immersion. Chercheurs et artistes découvrent leurs univers respectifs. Ils marchent ensemble le long des rivières marseillaises. Ils observent. Ils enregistrent. Ils écoutent. Les scientifiques parlent de biodiversité, d'éco-complexité, de continuité écologique, de ressources en eau. Les artistes partagent leurs créations, leurs dispositifs d'écoute, leur façon de capter un souffle, une vibration, une présence. Petit à petit, un langage commun commence à émerger. L'appropriation. Les artistes suivent les scientifiques sur le terrain. Ils découvrent les protocoles, les outils de mesure, les méthodes de collecte de données. Ils apprennent à regarder autrement une rivière.
Comme un milieu vivant. Comme un réseau d'interaction, comme un paysage en mouvement.
Et inversement, les scientifiques découvrent les pratiques artistiques dans leur profondeur sensible. Ensemble, ils explorent les questions essentielles.
Comment ?
Comment transformer la donnée scientifique en expérience sensible ?
Comment ?
Comment rendre audible, visible, perceptible ce que racontent les rivières ? C'est aussi dans ce moment que naît la dimension participative du projet. Car très vite, une autre envie apparaît. Celle de partager, d'aller vers les publics. Des scientifiques imaginent ensemble des ateliers collaboratifs, des outils de collecte, des expériences sensibles qui seront proposées aux élèves et aux participants du projet. Les participants deviennent alors eux-mêmes acteurs de l'exploration. Ils collectent des sons. Ils collectent des observations. Des fragments de paysages. Des données scientifiques. Ils collectent des récits. À travers les pratiques artistiques, ils apprennent à se réapproprier ces connaissances. Observés, enregistrés, traversés, les collectifs imaginent des formes nouvelles. Des récits, des paysages sonores, des installations, des expériences immersives. Des créations inspirées à la fois par l'écologie globale, l'éco-complexité des rivières et par les émotions qu'elles suscitent. Rivière devient alors un espace de rencontre entre sciences participatives et créations contemporaines. Apparaître par le son ou l'image une rivière invisible sous nos pieds. Peut-être entendrons-nous battre la présence silencieuse d'un cours d'eau enfoui sous la ville. Peut-être serons-nous plongés dans des paysages sonores composés à partir des données scientifiques elles-mêmes. Ou peut-être simplement invités à ralentir, à écouter, à renouer avec ces milieux fragiles qui continue de traverser nos territoires. Et si nous recommencions simplement à écouter les rivières, Rivière est un projet expérimental qui a vocation à grandir, à aller à la rencontre de multiples publics pour reconnecter le plus grand nombre à nos rivières.
De la vidéo. L'expérience a été tellement intense qu'une personne a dû être évacuée de l'auditorium. Vous vous ne l'avez pas vu, mais nous qui étions face à vous, nous l'avons vu. Nous avons le temps de prendre une question, si vous avez une question que vous voulez poser à Thierry avant qu'on passe au projet suivant. Cela. Ah. Est-ce que vous pourriez faire passer ce micro, s'il vous plaît, à Justine?
Tout d'abord, merci. Je trouve que c'était vraiment une présentation très originale et qui donne envie, en fait, effectivement, de regarder et d'écouter les choses différemment. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que seul ou avec une association ou dans un groupe, participer à ce projet expérimental.
Vous êtes dans la région marseillaise?
Non, pas précisément, mais j'imagine que peut-être vous avez dans l'idée de peut-être faire aussi ce genre d'expérimentation avec d'autres partenaires dans d'autres régions.
Alors, tout à fait. Dans un deuxième temps, là, vraiment, le projet va se focaliser sur les rivières marseillaises et sur le territoire que nos chercheurs expérimentent, étudient depuis de nombreuses années. Mais comme je le disais à la fin, c'est vrai que l'idée, ensuite, c'est d'élargir le projet et d'aller à la rencontre d'autres publics avec d'autres acteurs aussi. Donc je pense que le plus simple, ça serait qu'on échange nos coordonnées et que vous puissiez suivre aussi le projet à distance dans un premier temps, voir comment il évolue, voir les différentes phases de restitution qu'on pourra mettre en place. On en a déjà prévu pour la rentrée en octobre. Donc vous pourrez suivre petit à petit, puis nous contacter dans la phase 2 si on a tout ce qu'il faut pour continuer. Les financements notamment.
Merci beaucoup. Solveig nous parlait hier d'Ariane du PEPR ICAR qui mettait en contact les gens. Vous voyez que c'est quelque chose de très concret. Les gens se mettent en contact à l'occasion des journées d'accélération. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre remarque.
Et on va passer maintenant à la présentation donc de Céline Larère pour le projet Essaim Patron. Et voilà, il s'est affiché. C'est à vous. Peut-être désambiguiser, on va garder un seul micro sur la table, peut-être.
Alors, oui, celui-là, c'est la fonction, oui, les deux.
Donc, moi je travaille avec ça. Je suis danseuse et chorégraphe, et c'est vrai que d'être restée assise toute la journée, là, je pense que je vais faire la présentation comme ça. Donc je m'appelle Céline Larère, je suis danseuse et chorégraphe d'une compagnie qui s'appelle Morula et qui est basée dans les territoires, ce vaste domaine dont je suis rappelée exactement. Et donc on est co-porteur du projet Essaim Patron avec cette personne qui est Mathieu Lureau, qui est éthologue des insectes. Et donc dans ce projet, il y a aussi, il n'est pas là, et il n'est pas là non plus, Jean-Philippe Grosse, qui est musicien. Ce projet est né d'un cycle qu'on travaille avec la compagnie autour des questions d'attention, parce que dans ma pratique chorégraphique, l'attention, elle est vraiment centrale. Et suite à un projet d'échange de pratique qui a duré plusieurs années avec des paysans sur mon territoire, et à la lecture de Yves Citon, parce que tout le monde a cité ici, moi aussi j'ai lu Yves Citon, les fils se sont touchés dans mon cerveau et je me suis dit, mais en fait, il faut faire un projet d'échange de pratiques autour de ces questions d'attention avec d'autres praticiens de l'attention autour des questions environnementales, de milieu, de nature, on ne sait plus comment dire, mais. Donc, dans ce cycle autour de l'attention sont nés deux projets. Ce projet avec Mathieu Lureau est un projet en forêt de chaux de territoire sur 3 ans autour du reméandrement d'une rivière. Voilà. Donc ce projet est un patron. L'idée est vraiment de mettre en dialogue nos différentes pratiques pour se déplacer, de se glisser dans le langage des uns des autres, pour fabriquer un objet performatif, mixte, une conférence chorégraphique, qui permette d'autres formats de médiation scientifique, et aussi de créer des partitions, enfin, du contenu artistique qui vient vraiment d'un pillage du matériel scientifique. Voilà. Donc les premières résidences, on a vraiment fait des immersions dans le labo du CNRS au travail Mathieu à Toulouse. Ensuite, on est allé en studio, on l'a fait danser. Enfin, on s'est vraiment glissé dans la pratique les uns les autres. Et c'est vraiment de ça qui est en train de naître le format, parce qu'il n'est pas, c'est pas encore fini. La première aura lieu mi-septembre. C'est sur une des diapos, mais c'est ça doit être l'avant-dernière. Mi-septembre au festival de l'Université Aix-Marseille. Donc il nous reste encore 2 semaines de résidence. Et on a travaillé vraiment aussi dans l'idée de faire de l'éthologie une manière de regarder un processus de création. Et donc c'est des artistes qui regardent un éthologue qui regarde des abeilles, ou des abeilles qui regardent un éthologue qui regarde des artistes. On a joué aussi avec ces différents formats, ces différents langages, les mistranslations, de jouer aussi avec le rapport entre la vérité scientifique et la vérité performative. Voilà. Là, on voit plus spécifiquement un dispositif sonore, donc Jean-Philippe Grosse qui est ici, qui est musicien, parce qu'au début du projet, on avait ce fantasme d'avoir des abeilles en live, ce qui, je ne sais pas si vous savez, les moyennes de diffusion d'une pièce en danse, c'est proche de 1,2. Donc on s'est dit, si en plus on a des abeilles diffusion, ça va être 0,2. Ça posait plein de questions techniques, de transporter une ruche dans un train et tout ça. Bon, on a vite laissé tomber. Mais, et même des questions éthiques, quel est le lien, on a beaucoup discuté de ça aussi, le lien animal, etc. Tout ce qui est juridique aussi autour du droit, parce que il n'y a pas de droit des insectes, comme il peut avoir le bien-être animal n'existe pas pour les insectes. Donc c'est aussi tout un tas de questions qu'on a brassées pendant le processus. Bref, et du coup, Jean-Philippe a eu l'idée de créer des dispositifs à partir du matériel de laboratoire qui permettaient de ramener l'objet et ramener l'animal, mais d'une autre manière. Donc là, c'est par exemple un cadre en cire avec en dessous un haut-parleur qui fait vibrer des billes, parce que ces billes ont été capitales dans certaines expériences qu'a menées Mathieu, notamment dans un labo en Angleterre où ils ont prouvé que les bourdons aimaient faire rouler des balles juste pour le plaisir, grâce à ces petites billes. Il est en train de fabriquer un dispositif dans des boîtes à bourdons, parce que donc ces éthologues travaillent avec des abeilles, mais ça marche entre mars et septembre et 2 jours. Mais quand c'est en lumière artificielle ou l'hiver, ils travaillent avec des boîtes à bourdons qui peuvent amener à l'intérieur d'un labo. Lesquelles boîtes à bourdons sont commercialisées par des labos qui font ces boîtes à bourdons pour polliniser des cerfs. J'avais bref. Mais du coup, vous avez des espèces de boîtes en carton, type boîte à chaussures, mais carrées, et quand on ouvre, ça fait bouuuu. Et du coup, il s'est dit, mais je vais faire un travail de dispositif de diffusion sonore en mettant des petits haut-parleurs là-dedans, qu'on puisse déplacer dans l'espace, etc. Donc il travaillait vraiment le dispositif en réponse à ce qu'on a rencontré dans le processus. Moi, j'ai travaillé sur des partitions en danse qui s'inspirent de la manière dont les abeilles explorent l'environnement pour situer la ressource et revenir le communiquer à leurs collègues au sein de la ruche. Enfin, voilà, on a vraiment essayé de se piquer les pratiques les uns des autres. Et aussi du point de vue de Mathieu, il y a vraiment... Enfin, moi, j'étais vraiment surprise en allant au CNRS de voir tous les jours à la cafette des gens qui répètent leurs performances pour leur communication scientifique. C'est-à-dire, alors là, tu vois, tu fais une pause, tu respires, et puis ça, je pense qu'il faut couper, regarde plus au lointain. Mais c'était vraiment travailler un spectacle. Et en fait, Mathieu a pas du tout une moyenne de diffusion de pièces de 1,2, il fait presque plus de communication que nous de spectacle. Donc il a vraiment une pratique performative hyper importante. Donc voilà, donc on a aussi joué avec cette idée-là de sa pratique. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une conférence? Il y a des chorégraphies dans une conférence, on marche.
On va aller chercher un micro. Quand on n'a pas le micro, personne ne nous entend. Souvent, dans les conférences scientifiques, on passe devant le haut-parleur avec le micro. Ça fait du Larsen, ce qui est aussi un matériel sonore que Jean-Philippe Gross utilise beaucoup. Donc voilà, Donc là, pour l'instant, on a un foisonnement de matériel qu'on a mis sur plein de petits papiers sans colle. On n'a pas encore à l'ère du post-it, on n'a pas de colle sur le petit papier. Et qu'on peut déplacer comme ça dans tous les sens. On est en train de chercher la structure dramaturgique de ça. Voilà. Et donc, on a encore les prochaines résidences au CDCN, Centre de Développement Chorégraphique National de Dijon, hors les murs, à Barbier-sur-Ouche. Alors, la vallée de l'Ouche, en Côte d'Or, fin août, début septembre, avant de faire la première au Festival des Sciences et des Arts à Marseille. Et ensuite, on jouera au Festival entre cours et jardin à Barbier-sur-Ouche. Super festival de danse en extérieur, dans un parc de château très beau en Côte d'Or. Et puis ensuite, on travaillera une version in situ qu'on va jouer à l'Athénéum, qui est le Centre culturel de l'Université de Bourgogne-Europe. En tissant aussi des liens, il y a une spécialiste de la pollinisation qui travaille sur les pollinisations de cassis à l'Université de Bourgogne. Donc ça, on fait des liens aussi avec différentes personnes que le projet touche pour différentes raisons dans les lieux où on passe. Et Coma Bolder, en juin 27, qui est la programmation hors les murs de la scène nationale, scène du Jura. Voilà le programme. Si vous avez des questions...
Je vais laisser les bourdons pendant que vous réfléchissez à votre question, si vous avez une question pour Céline.
Vous pouvez aussi poser une question sans réfléchir.
Absolument, c'est complètement possible également. J'avais proposé hier de faire une danse interprétative entre les interventions. Je vois que je me suis trompé d'après-midi, en fait, c'était pour maintenant. On ne m'a pas communiqué la totalité du programme. Du coup, c'est... Non, pas de questions. Personne ne vous bourdonnait. Pas de billes. Bon.
Plus de billes.
Merci beaucoup, Céline.
Merci.
Merci. Et merci beaucoup pour l'invitation.
Il y a plus que
1,5
de fusion.
Oui, elle explose la moyenne.
C'est parce qu'il y a des communications, d'accord, en fait.
Bien,
non, c'est que dans des festivals. Donc
on a une question sans réfléchir, c'est
mieux.
Une question sans réfléchir.
Ouais.
Ça y est, on a remélangé les micros.
Oui.
Oui.
Ah.
Alors, c'est lequel?
Non, c'est le 2. J'avais vu que c'était le 2.
Vous avez bien compris que cet après-midi est performatif.
C'est une petite question sur le nom et sans patron. Et ça, on voit bien, mais pourquoi patron?
Patron, pattern, score... Ça vient... Bon, en Franche-Comté, on aime bien les jeux de mots débiles aussi. Je crois qu'il faut le dire, il faut l'avouer. Donc déjà, il y a ça. Et Saint-Patron, souvent quand on parle des Saint-Patrons, les gens entendent d'abord Saint. Enfin, ça brasse tout un tas de... Le Saint-Patron, et le... Voilà. Donc c'est... maîtrisé et pas maîtrisé comme d'habitude.
J'attends.
Donc je sais pas. C'est un psychanalyste plutôt. Mais... Voilà.
J'aimerais beaucoup qu'il y ait une deuxième question sans réfléchir. Au milieu de l'amphi, il y a une deuxième question sans réfléchir. Lançons-nous.
Un peu dans son jus, comme ça. On avait envie de bourdonner avec vous. Donc c'était le côté interactif au niveau du public. Est-ce que vous avez pensé à un bourdonnement commun avec les retours?
On est déjà la manière. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec l'improvisation et beaucoup en lien avec le public et ce qui se passe. Donc, il y aura certainement cet aspect-là qui sera vivant et activé. Et puis après, on réfléchit à des dispositifs qui puissent mettre en action avec le public les systèmes de prise de décision des abeilles lors de l'essaimage, qui sont des prises de décision collectives. Où elles doivent décider où elles doivent aller, il y a des éclaireuses qui viennent et elles votent, mais personne n'a jamais vu le lieu de destination finale, mais elles votent en faisant des danses et au bout de, je sais pas, ça dure entre 6 et 48 heures je crois, et c'est la danse la plus dansée qui indique le lieu où elles iront essaimer, mais ça se fait par
processus de décision collective, et, enfin, c'est des processus qui sont bien connus des gens qui font de l'intelligence collective. Mais du coup, cette chose-là, on réfléchit à comment on pourrait la déployer. Ce qui est compliqué, parce qu'il faut une communication claire, pas d'ego. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de clauses qui font que c'est très compliqué avec des humains. Mais voilà. Ouais.
Je crois que c'est parfait. Merci beaucoup, Céline. On a une espèce de d'écho poétique avec les murmurations d'oiseaux dont parlait Jean-François Gégaud plus tôt dans l'après-midi, où c'est la marche qui décide où va les saints oiseaux. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la communication ou la présentation en tout cas de Magali Martin. Je crois qu'il y a des diapositives. Je vais
il
mettre.
Y a des diapos et est-ce que c'est moi qui les fais passer ou pas du coup? Vous avez la petite manette. Voilà, on va revenir à une conférence qui est classique, voilà, scientifique, artistique. J'ai le 4. On est bon pour le 4? Ouais. Donc je suis Magali Martin, je suis artiste-chercheuse, doctorante à l'université d'Aix-Marseille, au LESA. Et je prépare actuellement une thèse de recherche-création en art contemporain sur la vision infrarouge que j'utilise comme dispositif d'observation critique du réchauffement global. Je remercie Lucie Marinier pour cette invitation, également les membres du réseau PEPR ICAR pour l'accompagnement doctoral dont je bénéficie, entre autres pour financer donc, mon terrain cet été. Alors, la filiation entre le musée de la chasse et de la nature. Je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Voilà. Donc, la filiation entre le musée de la chasse et de la nature, les questions de transition écologique et la vision infrarouge est absolument évidente. L'esthétique de la vision infrarouge, depuis son développement à l'aube de la Première Guerre mondiale, pour les besoins de télédétection des soldats, entretient un lien tenace avec l'idée même de prédation, puisqu'elle permet d'augmenter les capacités de la vision humaine, et puisqu'elle est longtemps restée le domaine presque exclusif des militaires, des industriels, et puis aussi des chasseurs, il faut le dire. Jusqu'à récemment, la vision infrarouge était une technologie bravement gardée, alors qu'on observe depuis une dizaine d'années un phénomène de démocratisation, notamment dans les disciplines à visée écologique, parce qu'elle permet de considérer les limites de nos sens et d'envisager d'autres modes de perception non humains. D'un point de vue technique, quand on parle de vision infrarouge, on désigne les machines de vision qui captent et mettent en forme des rayonnements électromagnétiques invisibles à l'œil humain. Donc notre système optique est absolument très limité. Il ne perçoit qu'une infime partie de ces rayons, qui sont compris donc entre 420 et 780 nanomètres. Tandis que toutes les autres fréquences d'ondes, comme les infrarouges, les ondes radio, les rayons X, ne lui sont pas accessibles. Et ce fait, en fait, nous laisse envisager là, par conséquence, des phénomènes atomiques qui nous échappent et qui sont pourtant partie constituante de notre milieu et de ce que les géographes appellent, en effet, la technosphère, on en a parlé hier, et qui laisse aussi un champ absolument grandiose d'exploration artistique, de représentation donc, de ces phénomènes atomiques. Donc, je vais montrer un petit peu mon travail.
Donc dans mon travail, j'expérimente tous les étés plusieurs dispositifs de vision infrarouge dans une dynamique de recherche par l'expérimentation. Par exemple, la thermographie m'a servi pour la réalisation de ce que j'appelle donc des portraits caniculaires de sujets humains et non humains qui sont saisis en situation d'extrême chaleur. Munie de mes prothèses infrarouges, je couvre également les méga-feux et confronte mon corps autant que mes machines aux limites de leur capacité face à des chaleurs insoutenables. J'utilise autant la photographie infrarouge qui permet donc de capter en fait des rayons proches du rouge par le biais de la réflectance spectrale que la thermographie qui fonctionne quant à elle par une captation directe de la chaleur, donc vous en avez un exemple ici, grâce à des capteurs de photons couplés à des systèmes de refroidissement qu'on appelle bolomètre ou micro-bolomètre et qui mesurent donc l'émissivité calorifique d'un objet ou d'un vivant. Dans le cas de la thermographie, on sort complètement du paradigme de la photographie et pour aller vraiment vers une écriture d'un rayonnement qui n'est pas lumineux et qui est calorifique. Et c'est en ce sens qu'on est donc dans le registre de la post-photographie
et qu'il me semble donc urgent aussi de prendre en charge en fait cette esthétique qui se démocratise de plus en plus. La vision infrarouge reste ainsi une affaire de perception machinique parce que les appareils infrarouges fabriquent des images computationnelles, autrement dit des images qui nous informent sur le monde autant qu'elles le déforment par le biais d'une boîte noire. Et l'écriture donc hyperspectrale réclame une réflexion urgente sur cette esthétique de capteur qui modélise des phénomènes qui sont quand même assez contre-intuitifs, ceux de l'électromagnétisme, de la lumière, de la chaleur, qu'en fait on a beaucoup de mal à se représenter. Et il me semble que donc cette piste de la vision infrarouge est intéressante, notamment pour parler du réchauffement climatique et de la chaleur que nous éprouvons tous. Que mesurent et que racontent vraiment ces images infrarouges? Ce sont les questions que je me pose actuellement. Comme l'ont très justement démontré Baptiste Morisot et Estelle Zong-Mengual, la détresse écologique que nous traversons relève d'une crise de la sensibilité, c'est-à-dire d'un problème de dissonance entre nos imaginaires liés au concept de nature et la réelle dynamique du vivant, celle que l'on ne perçoit pas dans la couche primaire du visible. Et de nombreux artistes comme Richard Moss, donc qui est auteur de cette série qui s'appelle Broken Spectre, série dans laquelle donc, il revient sur la dévastation en cours des forêts amazoniennes. Beaucoup d'artistes s'appuient sur les possibilités de la vision infrarouge. Ils traquent et politisent la part invisible mais non manquante d'événements climatiques d'origine anthropique, ce qui leur permet en fait, d'opérer une remédiation des phénomènes complexes d'interaction entre l'homme et le reste du vivant. Cette augmentation du réel par les machines infrarouges est rendue possible par ce qu'on appelle donc les fausses couleurs, qui lui donnent cette esthétique qui est très spectaculaire et très séduisante. Et l'exemple de Richard Moss me permet de rappeler, donc encore d'insister hein, sur le fait que ces images sont vraiment de nature algorithmique et délivrent des data qui appellent à un débat interdisciplinaire sur les limites et le potentiel de ces technologies de captation. La vision infrarouge mobilise autant notre sensibilité écologique qu'elle fait office de preuve dans le sens de forensic, c'est-à-dire d'évidence matérielle et tangible, d'où son usage dans des pratiques de contre-enquête dans l'art contemporain, avec donc, des artistes comme Richard Moss, comme Suzanne Scopely, The Authorist Group, ou encore Forensic Architecture, à qui on doit bien sûr cette idée fondamentale donc, de preuve matérielle. Prédater, c'est se lancer dans la traque d'une proie qui se dérobe. Les artistes que je viens de vous citer donc, traquent des mondes perceptifs dont nous sommes biologiquement exclus, mais qui nous sont en fait technologiquement accessibles. Et c'est ça, bien sûr, qui m'intéresse avec la vision hier. Et il y a comme un face-à-face ou même une interpénétration entre l'organique et le machinique. D'un côté, on a les milieux. J'aime beaucoup la définition de milieu telle que Augustin Berque l'emploie. Donc d'un côté on a les milieux qui sont des entités qui nous envoient des signaux, des fréquences et des ondes plus ou moins perceptibles, et de l'autre on a la qualité des capteurs, ou sensors en anglais, des capteurs de machines de vision qui reçoivent et traitent ces informations. Et ces informations, l'artiste Suzanne Scopely les considère en fait comme des material witnesses, c'est-à-dire des témoins matériels sur lesquels on doit s'appuyer pour raconter autrement les cataclysmes écologiques que nous sommes en train de vivre. L'image infrarouge n'en reste pas moins problématique. Juste pour la petite anecdote, la semaine dernière, j'étais donc en Roumanie, dans la région très préservée des Carpates, dans un petit village qui s'appelle Sinaia, pour une formation aux drones appliquée vraiment à l'observation environnementale. Et on a entre autres observé la population d'ours qui rôde affamée près des habitations de ce petit village qui s'appelle Sinaia. Mais comme vous pouvez le voir, on n'y voit rien. Et ces images sont d'une qualité très faible. Déjà, la thermographie n'a pas une bonne résolution, mais alors qu'en plus, on la greffe à un drone avec la distance de la vue aérienne, on n'y voit vraiment pas grand-chose. Et ça m'intéresse aussi forcément, ce paradigme de la résolution qui est quelque chose d'assez technofasciste en fait. Et moi ça m'intéresse que la vision infrarouge nous emmène vers des flous, alors que paradoxalement on l'utilise de plus en plus en tant que data. Mais si ces images ne sont pas contextualisées, ces images ont besoin d'être contextualisées, et de bénéficier d'une part de projections spéculatives, scientifiques et ou artistiques. Et aussi faible que soient les signaux que la vision infrarouge capture, ces signaux nécessitent une part minimale de mise en scène et de récit, et surtout d'intégration à une réflexion interdisciplinaire de recherche. Et enfin, dans ma pratique, j'essaye d'éviter, bien sûr, une approche clivante entre technophilie et technophobie. Ma recherche se confronte au paradoxe propre aux machines de vision, en tant qu'outil d'enquête à la fois prometteur pour l'écologie et en même temps extractiviste par nature. Là, par exemple, donc, vous avez une installation que j'ai créée cette année. C'est une photographie infrarouge qui montre donc un incendie survenu dans le nord du Portugal, dans la région de Fundão. Donc, c'est même un méga feu. On peut déjà, en fait, là, on voit pas très très bien, mais sur les photos que j'ai prises, on peut déjà en fait observer le stress de la végétation qui du coup est visible grâce à la captation par réflectance de la photographie infrarouge. On parlait aussi des eucalyptus, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, mais sachez qu'effectivement le dictateur Salazar adorait les eucalyptus et du coup il en a planté dans absolument tout Portugal et c'est ce qui explique en partie, hein, bien sûr il y a plein d'autres facteurs, les méga-feux qu'ils subissent depuis maintenant plusieurs années. Et donc à mon sens, voilà... La vision infrarouge, elle doit être absolument recadrée aussi dans cette réflexion sur l'écologie des pratiques. Elle doit être abordée dans son histoire extractiviste et plus globalement dans une histoire contemporaine des énergies fossiles. Le détail, pardon, que j'ai oublié de vous expliquer, c'est que donc il y a de l'asphalte et en même temps de la poudre d'incendie de Fundão que j'ai répartie donc tout autour. Et pour finir, voilà, je ne pourrais qu'insister sur le fait que, à mon sens, c'est très important qu'il y ait des artistes qui travaillent sur ces technologies de pointe, et notamment parce qu'en art contemporain, on critique nos propres outils. La science, quant à elle, a besoin de récits et les nouvelles technologies de démocratisation. Et donc, ce sont pour toutes ces raisons que je travaille aujourd'hui à la création du premier réseau art et science sur la vision hyperspectrale, donc qui comprend aussi la vision des ultraviolets, par exemple. Pour réunir des professionnels scientifiques, artistes et praticiens qui détournent ces technologies et pour structurer nos approches et nos problématiques avec en ligne de mire un style d'être au monde toujours moins anthropocentré. Je vous remercie.
Merci beaucoup Magali. Comme d'habitude, on va vous inviter à poser une question si vous en avez une. Faites attention parce que sinon je vais commencer à raconter des blagues.
On est redevenu très sérieux en plus.
Parce qu'on nous a parlé d'éco-anxiété, on nous a parlé de technofascisme, moi ça me donne le bourdon.
Voilà.
Voilà, je vous avais menacé. Hein.
T'es fort, t'es fort. Dit.
Céline, je... humour BFC, c'est validé. Eh bien, bientôt je déménage à Besançon. C'est bon ?
C'est bon, super, vous avez un micro. En fait, bah déjà merci pour la présentation. Ça me faisait penser au travail, enfin le lien entre le médium et le message, pour citer McLuhan, où en gros, quand l'artiste utilise un médium particulier, dans le cadre de ton médium, t'es sur de l'infra, donc ça dit quelque chose, à une époque où tout est ultra. Et donc là, tu voudrais explorer aussi de l'ultraviolet, mais voilà, est-ce que tu t'es posé la question de. Cette question de. Pourquoi l'infra, enfin, qu'est-ce qui est en dessous, est-ce qui est peut-être rhizomatique, est-ce qui est caché ou invisible, versus mettre en avant... voilà, c'est une question plus philosophique finalement.
Et justement, je vais répondre par la philosophie avec Tim Morton. Du coup, en fait, j'articule... là, en ce moment, je suis dans l'écriture de la thèse, et ce que j'essaie d'articuler, c'est le concept d'hyper-objet, qui est très très difficile à appréhender dans le temps, dans l'espace, par les sens aussi, et que du coup, effectivement... cet hyper-objet s'exprime aussi dans l'infra et en même temps on a le terme d'hyper-spectralité qui moi m'est cher, que j'essaie vraiment un peu d'imposer dans l'écriture aussi pour en fait signifier toutes ces régions qui nous échappent et c'est peut-être dans l'hyper qui se détecte par l'infra mais qu'il y a les plus gros problèmes à régler. Et ça me fascine cette idée, non pas hein, que évidemment la vision infrarouge viendrait singer, je fais un lien avec la suite, singer du coup d'autres modes de perception. On va pas se bercer d'illusions parce que ça reste de la de la technologie avec tout le côté arbitraire et esthétique, mais quand même l'idée que ça peut approcher d'autres modes perceptifs, comme par exemple celui des serpents, moi ça me fascine. Et ça, j'aimerais vraiment que dans les projets futurs, j'aimerais travailler justement avec des éthologues aussi, pour pouvoir envisager voilà, comment est-ce que ces technologies peuvent approcher ces mondes dont on n'a en fait aucune idée, quoi, au niveau de la représentation.
Ça me rappelle que, enfin, j'ai appris récemment que les oiseaux en fait voyaient le monde et leurs congénères de façon multicolore. Alors que nous, on va voir des teintes plutôt camouflage à la nature. Entre eux, ils se voient comme arc-en-ciel, donc ils sont presque sous acide en permanence.
Et ça a à voir avec le nombre de bâtonnets, du coup, plus que les fréquences qu'ils captent, j'imagine.
A priori, ouais. C'est ça, oui. Ouais.
Comme cette langouste, je crois, qui a 15 bâtonnets et qui, effectivement, voit tout le monde hyper coloré. Et, enfin, en fait, je trouve que pour les artistes, il y a un monde infini à venir explorer. Et on a besoin des scientifiques aussi pour le faire de façon éthique et éclairée, quoi.
Merci.
Merci pour la question.
Merci beaucoup. Ça donne envie d'avoir plus de bâtonnets. Et nous allons passer à la dernière communication. Salut, Selma. Tu peux complètement te mettre là. Et tu mets tes diapositives toi-même ou je te
dis ? Ouais, bon, je peux m'en
occuper. Ok, vas-y.
Est-ce
qu'on les avait pressentis et puis on les a re-rangés ?
Voilà, on est finis.
Vous m'entendez bien? Ouais, ok. Alors, je ne suis pas aussi forte que Céline, mais je vais essayer de vous garder éveillée pour cette toute dernière présentation. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter ma thèse, CIF, qui s'appelle « Penser l'écosophie au sein de l'écosystème de la création d'environnement numérique français par l'application des démarches low-tech » et notamment une nouvelle hypothèse de travail que j'ai pu déceler après un an justement de travail au sein de l'association Autopixel et sous la direction de Lucie et Jean-François et soutenue par Icar. Pour commencer, quelques mots sur ma thèse. Désolée, le titre contient beaucoup trop de mots, mais je pense qu'après je vais essayer d'en avoir moins. Mais en fait, ce que j'essaye de penser, c'est assez simple, enfin, simple, pas forcément, mais c'est comment rendre l'industrie des technologies et les usages qui en découlent moins néfastes en m'inspirant des arts numériques et de ce qu'on appelle les démarches low-tech. Je dois vous avouer quelque chose, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, les technologies, elles me fascinent, parce qu'elles transforment notre vision du monde, notre façon de penser, notre façon de vivre en société, mais surtout notre manière de créer. Pourtant, malgré cette fascination, il y a une inquiétude qui persiste. Le système technique qu'on a construit depuis l'avènement de l'ordinateur a des conséquences graves sur notre environnement physique, notre psyché, nos relations humaines et même nos systèmes politiques comme le technofascisme ou le colonialisme technologique le montrent. Donc moi, je suis un peu la fille spirituelle de Jean-François, je vais aussi vous parler d'écosophie. il m'a dit que la pédagogie, c'était la répétition, donc je vais me permettre de redire. En 89, Félix Guattari, dans Les Trois Écologies, a souligné que la crise écologique, elle ne se limite pas donc, à la nature. Elle touche aussi nos systèmes sociaux et notre équilibre mental. Pour lui, donc, ces trois dimensions, elles sont indissociables. Et c'est en les abordant ensemble qu'on pourra résoudre la crise écologique au sens large du terme. Donc il propose un outil théorico-pratique qu'il nomme écosophie, qui signifie en fait habiter sagement la terre, ce que je trouve très très beau. Et pour habiter sagement cette terre, ça implique de prendre soin non seulement de notre environnement physique, mais aussi de nos sociétés, de la manière dont on réagit les uns avec les autres, dont on relationne, et de nos esprits. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'industrie des technologies, elle aggrave ces crises au lieu de nous aider à les résoudre. Donc je me demande comment développer des usages technologiques qu'on pourrait qualifier d'écosophiques. Heureusement pour moi, malgré mon pessimisme naturel, travailler au sein de l'écosystème des arts hybrides et numériques depuis 5 ans, ça m'a permis d'entrevoir quelques pistes. En effet, les artistes qui utilisent et pensent le numérique comme outil principal de leur création, mais aussi toutes les personnes qui les accompagnent, ont depuis de nombreuses années déjà développé tout un tas d'usages, de regards critiques ou de façons de produire avec les technologies qui me semblent être une mine d'or pour nous réapproprier notre système technique et potentiellement l'orienter vers un système qu'on pourrait qualifier d'écosophique. Mais l'écosystème des arts numériques n'est pas le seul à avoir expérimenté. Un autre secteur l'a fait aussi en parallèle, celui des low-tech. Pour qu'une approche elle soit considérée comme low-tech, d'après l'ADEME, elle doit reposer sur quatre principes clés. Tout d'abord, la posture technocritique, ça veut dire que lorsqu'on conçoit un objet ou même un projet, celui-ci doit impliquer et penser les impacts éventuels environnementaux et sociaux. Ensuite, il y a évidemment être dans une démarche éco-responsable. Et puis, il y a un critère que j'aime beaucoup qui est celui de la convivialité. C'est-à-dire que l'outil ou le projet doit être accessible, réparable et adaptable, ce qui permet en fait la transmission de savoir-faire et le lien social. Et enfin, aussi toujours questionner le besoin. Se demander en fait si ce projet ou cette technologie elle est vraiment nécessaire. Est-ce qu'il n'existerait pas une alternative plus simple et plus durable ? Donc en résumé, les low-tech, en fait, c'est réfléchir avant de faire, en plaçant l'humain et la planète au cœur des choix technologiques. Pour moi, ces deux communautés, elles proposent déjà plusieurs modes de production et d'usage technologique moins impactants pour les trois écologies. D'après moi, elles partagent une esthétique méthodologique commune. L'open source, le bidouillage, l'échange de savoir-faire, le détournement des objets, l'économie moyen, parfois imposée, la frugalité, la convivialité, le regard technocritique, ou encore la participation et l'implication des publics, sont autant de traits en commun que j'ai pu identifier entre art numérique et low-tech. J'ai donc le sentiment qu'en m'inspirant à la fois des solutions développées au sein de l'écosystème des arts numériques et de celui des low-tech, on pourrait proposer des usages technologiques plus robustes, éthiques et conviviaux dans le champ de la création. Mais inversement, cette alliance, elle permettrait aussi au secteur des low-tech d'envisager de nouvelles manières de concevoir les technologies. Je me dis que grâce à un transfert de compétences depuis l'écosystème des arts numériques, il serait possible d'encourager encore une fois l'apparition d'usages numériques écosophiques grâce à une forme de rétro-innovation créative. Cette dernière hypothèse a pu se préciser et se dessiner finement lors des journées d'accélération que j'ai eu le grand plaisir d'organiser les 9 et 10 mars dernier, et durant lesquelles on a organisé un sprint créatif. C'est comme un hackathon ou jam créatif, c'est-à-dire que pendant 2 jours, il y a eu 18 personnes dont les métiers étaient tout à la fois de la production, de la programmation, de la médiation, de la création et même du design, qui ont tenté de relever 3 défis que je leur ai posés. Et l'objectif général de tous les défis était de répondre à la question « Comment développer des usages technologiques écosophiques en s'inspirant justement des arts numériques et des low-tech ?» Il existe évidemment une longue histoire de l'intégration des artistes dans des environnements scientifiques et industriels qui ont favorisé l'innovation, tant artistique que technologique et industrielle. On peut citer du coup par exemple le Bell Labs qui l'a fait dès les années 50, le programme PER du Xerox PARC ou encore le programme STARTS de la Commission européenne. En France, on n'est pas en reste, il existe l'IRCAM, le master atelier dont Jean-François est responsable, l'ancien laboratoire art et technologie de Stéréolux, et aussi la Biennale Experimenta qui est organisée conjointement par le CEA et la scène nationale de Mélan à Grenoble. Toutes ces initiatives, en fait, elles ont vu émerger de nouvelles technologies utilisées aussi bien dans le secteur artistique qu'industriel. Par exemple, il y a eu un gant interactif qui a été créé pour un spectacle numérique qui aujourd'hui a des applicatifs pour le monde médical et les personnes en situation de handicap. Bref, vous l'aurez compris, lorsqu'artistes et scientifiques travaillent ensemble, l'innovation elle peut prendre de nouveaux chemins. Aujourd'hui, j'ai le pressentiment qu'il serait possible de continuer de s'inscrire dans cette démarche, mais cette fois-ci non pas pour créer des technologies de pointe, mais au contraire pour explorer de nouvelles manières de penser et concevoir des technologies écosophiques. Il existe déjà un grand corpus d'œuvres et d'outils qui s'inscrivent dans cette démarche, justement, tels que le projet Oniri 2070 de la compagnie Organic Orchestra, qui a réussi grâce à la collaboration entre le Low-Tech Lab, la compagnie, le CEA, le CNRS et encore une fois la scène nationale de Mélan, à produire un spectacle audiovisuel qui consommait donc moins d'un kilowatt-heure par représentation, ce qui fait à peu près la cuisson d'un poulet au four pendant 1 heure, ou d'un bar. qui pouvait se jouer, qui peut toujours se jouer dans des lieux non raccordés au réseau électrique et qui peut se déplacer à vélo grâce à des pop-up box qui sont en fait des remorques polyvalentes hyper intelligentes qui peuvent se transformer en valise, en table de jeu ou même en caisson sonore. Et tous les plans sont accessibles en open source sur le site de la compagnie. Mais revenons un peu au sprint. Durant ce dernier, il n'y avait aucune personne qui était scientifique. Les participants venaient uniquement du monde de la culture et du design, donc avec pour objectif d'explorer la technique à travers l'art. Donc vous me direz quel est le rapport avec tout ce que je viens de vous dire. Bah, c'est que 2 prototypes sur 3 ont révélé une piste innovante. Les imaginaires, en fait, elles semblent permettre de décentrer le technicisme majoritaire des low-tech en ouvrant la voie à une nouvelle approche plus créative, conviviale et joyeuse de l'incapacitation technologique. Lorsque je parle de technicisme des low-tech, j'aimerais quand même nuancer mon propos. En fait, initialement, à l'origine, le low-tech lab de Concarneau, qui a été porté par des ingénieurs en conversion et qui a popularisé la low-tech en France, avait une approche très technique. En fait, l'objectif, c'était surtout de reproduire des technologies avancées, mais dans une démarche éco-responsable. Et la question de l'accessibilité, elle était juste pensée par le fait de mettre en ligne les plans en open source. Mais il y avait finalement peu d'attention portée à l'accessibilité ou la réappropriation des outils par le grand public, via par exemple des ateliers, etc. Et donc l'accent était surtout mis sur les défis techniques, plutôt que sur l'autonomie et l'incapacitation technologique. Mais malgré tout, la communauté a évolué. J'ai appris récemment que le Low-Tech Lab va sortir un manifeste dans quelques temps qui met justement l'accent sur la question de l'incapacitation et de la réappropriation des outils. Et par ailleurs, en fait, ça fait très longtemps qu'il y a d'autres initiatives comme le Fluid Space à Marseille, qui est porté notamment par des artistes avec une approche queer et féministe, qui avait déjà cette vision. Et Jean-François en a parlé tout à l'heure et qui notamment porte la question du permacomputing. Donc en fait, d'après moi, l'approche artistique, elle pourrait accélérer cette dynamique en cours dans le secteur des low-tech grâce à l'imaginaire, tout en continuant à penser évidemment les outils dans un cadre de redirection écologique. J'en tiens donc pour indice les 2 prototypes qui ont eu lieu au sprint ainsi que 2 autres projets. L'objectif du premier sprint était de répondre à la question suivante. Comment des œuvres low-tech peuvent nous surprendre et nous émerveiller autant voire plus que des œuvres très technologiques? Et c'est exactement ce qu'a fait le premier prototype qui s'appelle « Vous allez voir ce que vous allez voir ». L'idée de départ, elle était assez simple. En fait, on s'est demandé est-ce que l'immersion et la magie ne dépendaient pas finalement que de la réalité virtuelle ou des écrans, mais plutôt de notre capacité à rêver. Esther Meunier, qui faisait partie de l'équipe du projet, qui est une artiste numérique issue du monde du théâtre, elle est revenue à une idée très simple qu'on retrouve justement dans l'art théâtral. L'imagination est une technologie ultra puissante et 100% low-tech. Et donc, comme au théâtre ou dans un livre, le public recrée un univers entier à partir de quelques éléments. Mais c'est vrai que normalement, dans les arts numériques, on a souvent recours à des technologies complexes pour stimuler la perception. Donc, pour concrétiser l'idée, les participants et participantes avaient les yeux bandés, étaient plongés dans l'ambiance d'une fête foraine et elles se laissaient porter par une bande-son. Des canapés sur roulettes qui imitaient le mouvement d'un manège, le vent d'un ventilateur et même des odeurs de barbapapa. Aucune énergie consommée, juste celle de nos neurones. Et le résultat, un moment de lien, de joie et de détente, prouvant qu'on peut créer du merveilleux avec très peu. Donc maintenant, un autre projet tout aussi inspirant, la Disco Low-Tech, avec son slogan « Do your party yourself ». Et ce prototype répondait à la question « Comment les publics peuvent-ils se réapproprier collectivement et dans la joie les technologies via une exposition ou une œuvre d'art conçue de manière low-tech ?» Donc en fait, l'équipe a imaginé une boîte de nuit où chaque participant et participante avait un rôle. Donc il y avait une personne qui pédalait sur un vélo vinyle pour la musique, une autre qui actionnait un dispositif lumineux, une autre qui faisait tourner une essoreuse à salade transformé en boule disco, ou encore d'autres personnes qui utilisaient un système maki-maki pour déclencher des sons. Et le projet a fait mouche, évidemment, tout le monde s'est pris au jeu assez rapidement et a partagé un moment joyeux et agréable. Et il y a même eu, l'équipe elle est même encore plus loin dans la démarche low-tech, et elle a proposé des tutoriels DIY qui ont du coup été créés pour que en fait, chacun et chacune puisse reproduire chez soi les dispositifs avec peu de matériel. Donc c'est une belle invitation à passer du statut de consommateuriste à celui de créateuriste, même et le tout dans une démarche éco-responsable. J'aimerais quand même préciser que parmi les personnes qui ont participé à la création de ces dispositifs, plusieurs n'avaient aucune connaissance technique, voire artistique, mais tout le monde s'est senti très à l'aise de prendre part au projet et de donner des initiatives. Par ailleurs, Sophie Yin et Mathieu Deflermel, qui sont ici présents, ont avoir réalisé un super fanzine et un podcast qui retrace l'histoire de ces deux journées et du sprint. Donc n'hésitez pas à aller voir et je tenais encore à vous remercier pour ça, c'était vraiment super. Il y a une autre chose, c'est que la vie parfois elle est très bien faite. Parce que deux jours avant le sprint, j'ai eu la chance d'intervenir au festival Visiophare et j'ai rencontré l'équipe d'un projet de parc d'attractions low-tech. Et en fait, cela a directement fait écho avec tout ce que je viens de vous proposer. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une piste à suivre. Donc, l'équipe, elle est composée d'un ingénieur, Christophe Pickmann, d'une designeuse, Laurie Join, et d'une artiste scénographe, Elodie Duclos. Et en fait, l'équipe, elle cherche à créer un parc d'attractions où l'expérience d'un monde alternatif, sobre et profondément humain soit fun, drôle et vecteur de bien-être. Pour elle, vivre en fait concrètement cette alternative peut devenir un puissant moteur de changement. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que leur collaboration entre profils artistiques, design et ingénierie illustre parfaitement comment l'approche artistique permet d'envisager justement une nouvelle manière de créer des objets écosophiques. D'après elle, leur diversité de compétences leur permet justement de sortir d'une vision purement technique pour penser des outils au service des imaginaires, de la joie et du partage, le tout dans une dynamique éco-responsable. Je pourrais aussi nommer le Visiophare dont Paul a parlé ce matin. Moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'avoir des projets et de l'utiliser. Et c'est assez fascinant comme à chaque fois, les publics se sentent très vite autorisés à l'utiliser et à se mettre dans une position de créatrice très facilement. Donc en fait, on remarque que dans toutes les idées et propositions qui ont été faites, il y a des points communs. Toutes ces innovations, elles regroupent des équipes projets impliquant des profils artistiques. Elles sont conçues en grande partie sur une forme de rétro-innovation créative. Et surtout, elles aboutissent à une vision de la technologie au service d'un moment de partage et de lien social. En bref, ces quatre exemples me donnent l'impression que dans les collaborations artistes, scientifiques, techniciens, techniciennes, il existerait un nouveau champ pour explorer la conception d'outils technologiques au service des trois écologies. Donc j'ai proposé à des personnes du secteur des arts numériques de se frotter à une autre conception de la technologie, à savoir les low-tech, et ça a abouti à des dispositifs surprenants. Et maintenant, en fait, j'aimerais pouvoir faire l'inverse, pouvoir faire travailler des artistes numériques et des personnes du secteur de low-tech pour voir si, en effet, leur association pourrait créer des technologies écosophiques. Par exemple, une idée de défi, ce serait de leur demander à quoi ressemblerait un outil de communication convivial. Donc si parmi vous, il y en a qui sont intéressés par le projet, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si le sujet vous intéresse, on pourra en parler.
Merci beaucoup Inès. Et effectivement, si vous êtes intéressé de jeter un œil sur le fanzine et sur le podcast, une oreille sur le podcast, vous pouvez nous demander, on vous donnera les références. Vous connaissez la règle du jeu, une question, sinon je fais une blague. Et je suis sûr que vous en avez, nous sommes tous de crever, mais nous avons forcément la ressource pour une question. Vous avez le droit de vous poser des questions entre vous.
Hein, c'est pas... Ah oui, oui. J'en ai posé assez vite à l'heure. Mais
bah, formidable, c'est une blague. Tiens, je te prête mon micro.
Bonsoir à ceux qui ne m'ont pas vu hier, je suis Solveig Serre, je suis directrice du programme du bazar, d'Icar le bazar. Et je voulais juste, c'est pas du tout une question, je voulais juste remercier beaucoup donc tous les cinq, Stéphanie, la visio et puis vous, parce que en fait c'est la preuve qu'avec un tout petit peu d'argent dans la recherche, pas beaucoup, pas assez, mais on fait quand même des merveilles et on est hyper heureux d'accueillir cette diversité, cette foisonnement d'idées, cette diversité de secteurs, etc. Franchement, merci beaucoup. On est hyper contents, on se dit qu'on a rempli la mission pour laquelle... La mission qu'on nous a confiée, voilà. Merci vraiment beaucoup.